de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta, aujourd'hui, le 16 avril 2020. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'année prochaine, il y aura un boom touristique, selon le président Joko Widodo. Le développement du village touristique du lac Toba sera commencé en juillet, a déclaré le ministre Luhut Binsar Panjaitan. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a réaffecté un budget de 500 milliards rupiah pour sauver le secteur du tourisme et de l'économie créative. La politique de Trump d'arrêter l'aide à l'OMS est critiquée. Des centaines de réfugiés rohingyas sont trouvés la faim dans la mer. L'Australie pousse les écoles à rouvrir et prend des mesures pour débloquer les restrictions. Pour la première fois en 60 ans, la croissance économique en Asie s'arrête en raison de COVID-19. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo estime que le secteur du tourisme connaîtra un boom en 2021 après la nouvelle épidémie de coronavirus ou COVID-19. Le président, lors d'une réunion limitée à travers une conférence virtuelle sur le thème « L'atténuation de l'impact COVID-19 sur le secteur du tourisme et de l'économie créative » du Palais de Jakarta Merdeka jeudi a déclaré qu'il avait prédit en 2021 que tout le monde voulait sortir et que tout le monde voudrait profiter de la beauté, surtout après avoir dû rester à la maison pour supprimer la propagation de l'épidémie de coronavirus au cours des mois précédents. Il invite les acteurs et l'industrie du tourisme à rester optimistes. Selon le président, le boom du secteur touristique doit commencer à être préparé. Il veut s'assurer que la distribution de stimulants économiques pour les entreprises du secteur du tourisme se passe bien afin qu'elles puissent survivre et ne pas faire de licenciements massifs. Le développement du village touristique dans la destination super prioritaire du lac Toba peut être commencé en juillet, a déclaré le ministre coordinateur des Affaires maritimes et des investissements, M. Luhut Binsar Panjaitan, récemment dans une déclaration écrite à Jakarta. Il divisera les tâches aux ministères et institutions concernées afin qu'il y ait des étapes d'intégration. Il y a 10 villages touristiques qui devraient être développés dans le lac Toba, qui sont répartis dans la région de Humbang Hasundutan, 3 villages, la région de Toba, 4 villages, et la région de Tapanuli du Nord, 3 villages. De tous les villages, il existe divers besoins principaux, en particulier la réparation d'infrastructures, entre autres, l'amélioration de l'accès routier dans 7 villages, l'approvisionnement en eau potable dans 5 villages, la formation en ressources humaines dans 3 villages, et la réparation de maisons traditionnelles dans deux villes. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a réaffecté un budget de 500 milliards de rupiahs pour aider à sauver le secteur du tourisme et de l'économie créative pendant la période d'urgence en COVID-19. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Vishnu Tama Kusubandyo, après une réunion limitée par vidéoconférence présidée par le président Jokowi à Jakarta récemment, a déclaré qu'il coordonnerait intensivement avec le ministère des Finances afin de fournir diverses aides à ce secteur. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le journal. Merci d'être fidèle à La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé la décision du président américain Donald Trump qu'il arrêtait l'aide à l'Organisation mondiale de la santé au milieu de la pandémie du coronavirus au COVID-19. Cité par CNN Indonésie, qui a lancé par AFP jeudi, Guterres a souligné que ce n'était pas le moment de réduire les ressources pour les activités de l'OMS ou d'autres agences humanitaires qui luttent contre le virus. Même l'une des personnes les plus riches du monde et fondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré que la décision de Trump de cesser de donner le fonds à l'OMS était très dangereuse. Trump a raisonné que la suspension temporaire du financement à l'OMS, parce qu'il accusait si l'OMS avait tort de prendre des politiques et couvrir la propagation du coronavirus. La garde côtière de Bangladesh a déclaré qu'il avait sauvé au moins 382 réfugiés rohingyas affamés dans chalutier surpeuplé et avait emmené sur la côte près de Teknaf. Ils ont dérivé dans l'océan pendant près de deux mois. Le porte-parole des gardes côtières, Shahzia Rahman, cité par BBC jeudi, a affirmé que dizaines de personnes étaient mortes sur des navires essayant d'atteindre la Malaisie. Ils ont été bloqués pendant 58 jours et au cours de ces derniers jours, le navire a déménagé dans les eaux territoriales du Bangladesh. Certains rapports indiquent que le navire avait été rejeté par la Malaisie en raison de la pandémie COVID-19. Jusqu'à présent, le départ des réfugiés fait toujours l'objet d'une enquête, que ce soit du Bangladesh et du Myanmar. Jeudi, le 16 avril 2020, le gouvernement fédéral australien a exhorté le chef d'État à rouvrir les écoles dans un premier temps pour assouplir les politiques de restrictions sociales qui ont contribué à réduire la propagation du coronavirus dans le pays. Jusqu'à présent, l'Australie a été relativement en mesure de réduire les cas de COVID-19 par rapport à un certain nombre d'autres pays à travers le monde. Selon les enregistrements du site web de Worldometer Info, l'Australie a un ratio de 253 cas d'infection pour 1 million d'habitants et 2 cas de décès avec le même ratio. Le pourcentage de nouveaux cas par jour est constant à un chiffre, alors il y a quelques semaines, il atteignait 25%. L'Australie a adopté une politique de fermeture de restaurants, bars et magasins considérés comme non privilégiés et menacés d'amende et emprisonnement pour empêcher le rassemblement de plus de deux personnes dans des lieux publics. Le Fonds monétaire international ou FMI a déclaré la pandémie de COVID-19 pour arrêter la croissance économique en Asie en 2020. La crise due au virus COVID-19 a affecté le secteur des services et les exportations dans la région asiatique. Le directeur de FMI pour l'Asie et le Pacifique, Chang Yong-ri, comme cité par Reuters jeudi, a déclaré que la croissance économique en Asie cette année sera arrêtée pour la première fois en 60 ans en raison de la crise pandémique COVID-19. Selon lui, l'impact de cette pandémie sur la région Asie-Pacifique serait très grave. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, porter le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, préparer de faire face à la deuxième attaque de COVID-19. Wuhan a rouvert en février dernier. Wuhan a été déclaré 0% de la propagation de nouveaux virus, mais en fait, au 12 avril en Chine, il y avait 108 nouveaux cas. Même 3 personnes sont mortes dans la ville de Jian, la ville de Yunnan, en Chine. La Corée du Sud doit également faire face à des faits similaires. Après avoir brièvement contrôlé le taux d'infection par des tests massifs, le 13 avril, il y avait 116 personnes qui se sont rétablies, ressentant les symptômes de l'attaque de COVID-19, plus 25 nouveaux cas. Singapour, qui a réussi à supprimer les taux d'infection les plus faibles des autres pays de la région de l'Asie, fait actuellement face à une augmentation assez élevée du potentiel d'infection. Plusieurs cas peuvent être examinés dans les cas de la Chine, de la Corée du Sud et de Singapour. La Chine a reçu un certain nombre de nouveaux cas d'infection par le virus corona après que Wuhan ait été déclarée ville ouverte et de nombreux migrants de l'extérieur de la Chine qui sont venus étaient déjà infectés et sans symptômes ou personnes sans symptômes. Ainsi, lorsqu'un pays atteint le sommet de la première attaque corona après une longue pause, une deuxième attaque émerge. Selon Diki Budiawan, un épidémiologiste indonésien et candidat au doctorat de Griffith University Australia, la deuxième attaque du virus corona survient lorsqu'une zone atteint le pic de pression du virus corona, puis il y a une diminution. Après une force de diminution du nombre de la propagation de l'infection, il y a à nouveau une augmentation des cas. Pour la deuxième augmentation avec le taux de 3 à 10% de la population, 90% est la population qui n'a jamais été exposée auparavant. Donc, si nous nous y référons, nous pouvons examiner les conditions de chaque pays. La moyenne n'est pas terminée face à la période de pointe des attaques de COVID-19. Après cela, on doit se préparer à la deuxième attaque. Parce que le voyage pour faire face à ce virus semble encore assez long. En raison du potentiel d'attaque et même à la deuxième attaque, le monde international devrait soutenir les efforts de découverte de vaccins qui continuent d'être menés par plusieurs pays. Nous espérons qu'il n'y aura plus de victimes du virus corona. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, nous vous présentons maintenant l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit devenant important. Nous commençons l'histoire aujourd'hui avec l'événement la fondation du mouvement des étudiants islamiques indonésiens le 17 avril 1960. Le mouvement des étudiants islamiques indonésiens, PMWI, est une organisation étudiante qui a été créée le 17 avril 1960 à Surabaya. Le premier président était Mahbub Junaidi. PMWI vise à répondre aux défis de l'époque. Sa fondation était le désir des étudiants de Nahdlatul Ulama pour établir une organisation d'étudiants dont l'idéologie Ahlus Sunnah wal Jamaah. Notre information est sur les Khmer Rouge ont occupé Phnom Penh le 17 avril 1975. Le 17 avril 1975, Khmer Rouge, dirigé par Pol Pot, est entré dans la ville de Phnom Penh. En quelques jours, ils ont exécuté des grandes figures de Cambodgiens et renversé le régime du général Lon Nol. Plus de 2 millions d'habitants de Phnom Penh ont été sachés de la ville et déplacés dans la zone de refuge. Il n'y a plus d'activité à Phnom Penh. Toutes les économies du pays ont changé sous le communiste. L'argent a disparu de la circulation qui a fait la famine et la maladie dans cette région. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée mondiale de l'hémophilie le 17 avril. La Journée mondiale de l'hémophilie est une journée internationale de sensibilisation à l'hémophilie et autres troubles de la coagulation. Elle est célébrée le 17 avril, date de l'anniversaire du fondateur de la Fédération mondiale de l'hémophilie, Franz Nebel. Tandis que la Fédération mondiale de l'hémophilie est une organisation internationale à but non lucratif créée en 1963 dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation. C'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kita sadari saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala. Berharap doa dapat memutar waktu. akankah akhirnya kita sadari.
Voilà la première chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, le ministère de l'Agriculture inaugure 67 agriculteurs ambassadeurs. Lundi, le 13 mars 2020, le ministère de l'Agriculture a inauguré 67 agriculteurs ambassadeurs millénaux et agriculteurs ambassadeurs principaux dans un certain nombre de provinces dans le but de régénérer les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, lors de témoigner virtuellement la cérémonie d'inauguration à Jakarta lundi, le 13 avril, a déclaré « Lorsque la pandémie de COVID-19 sont encore confrontées à un certain nombre de pays, y compris l'Indonésie, le secteur agricole était de plus en plus nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires. » Syahrul Yasin Limpo a déclaré que plus le COVID-19 dure longtemps, plus les gens ont besoin d'agriculture. L'agriculture nécessaire est une agriculture efficace, efficiente et transparente. Cela peut se faire par l'intermédiaire d'agriculteurs millénaires qui sont modernes. Le ministre de l'Agriculture a confirmé 59 agriculteurs ambassadeurs du millénaire âgés de 19 à 39 ans et 8 agriculteurs ambassadeurs principaux âgés de plus de 39 ans. Les agriculteurs ambassadeurs provenant de divers aspects de communauté, tels que les cultures vivrières, les plantations, le bétail et l'horticulture. En fait, il existe également des vulgarisateurs agricoles qui aident les agriculteurs et transfèrent les innovations agricoles et les technologies de l'information afin qu'ils puissent produire des agriculteurs prospères. À la même occasion, le chef de l'Agence des ressources humaines agricoles et du développement, Dedi Nur Syamsi, a déclaré que l'inauguration vise à accélérer la régénération des agriculteurs en renforçant le rôle de la jeune génération d'agriculteurs dans le développement et l'avancement du secteur agricole pour qu'il soit plus prospectif et ait des opportunités d'exportation. Il considère donc que les jeunes agriculteurs doivent pouvoir contribuer au mouvement de renouvellement du développement agricole. Ces ambassadeurs devraient être en mesure d'attirer d'autres millénaux pour devenir des entrepreneurs agricoles. En outre, il est en mesure d'accélérer le pays d'ailleurs auprès de la communauté, notamment en ce qui concerne les programmes du ministère de l'Agriculture, afin que le programme puisse être mis en œuvre rapidement sur le terrain. Dedi a confirmé que face à cette pandémie de COVID-19, l'agriculture est en première ligne dans la prévention des infections, car elle joue un rôle important dans la satisfaction des besoins alimentaires des personnes pour maintenir l'immunité du corps. Au cours de cette période de COVID-19, de nombreuses opportunités peuvent être utilisées par les entrepreneurs agricoles du millénaire, en particulier dans le domaine de la production à la ferme, tels que les légumes frais, les fruits, le lait, les œufs, les noix, qui sont des fournisseurs de vitamines et des protéines pour accroître l'endurance. À cette occasion, la direction du Millennial Farmer Ambassador Forum et du Main Farmer Ambassador Forum ainsi que le coordinateur provincial ont également été créés, qui sont également présidés par Sandy Okta Susila. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, toko kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu, ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Oh, oh.
satu dunia di warnamu pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dunia di warnamu pesonamu. Tanggalan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu.
Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Oh, menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku
tetap aku yakin kita berdua bisa menyatu.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, je présenterai le tissu Kasab d'Aceh. La 20e édition du Salon international de l'artisanat de Jakarta Inacraft 2019 va se dérouler du 24 au 28 avril 2019 au Centre des Congrès de Jakarta, JCC, Jakarta Central. Divers objets d'artisanat local indonésien sont exposés dans cette exposition. Le Conseil régional des métiers d'art d'Ekranasda d'Aceh Nord exposera un certain nombre de produits artisanaux traditionnels à Inacraft 2019. Le président de Ekranasda d'Aceh Nord, Cut Ratna Irawati, a déclaré que les produits supérieurs régionaux présentés sont des sacs Aceh, des capuchons, des tissus, de broderies et plusieurs accessoires typiquement d'Aceh. Il existe également un tissu Kasab d'Aceh Nord, une variété de bijoux allant de motifs rencong, etc. Cut Ratna Irawati a ajouté que les produits des petites et moyennes entreprises exposés en qualité avaient été reconnus par la communauté internationale, car ils avaient été vendus dans plusieurs pays tels que la Malaisie, Singapour, le Brunei Darussalam et les États-Unis. Parmi un certain nombre de produits locaux d'Aceh qui seront exposés à INACRAF 2019, nous nous invitons cette fois à savoir davantage sur le tissu kasap d'Aceh. Le tissu kasap est un produit artisanal de broderie en or ou en argent typiquement d'Aceh qui est traditionnellement cousu sur du velours. Le tissu kasap est composé de nombreux motifs, généralement en forme de fleurs brodées et même décorées de perles dorées. On dit que ce type de tissu traditionnel représente un statut social qui n'est plus en cause par la suite. Le jaune symbolise un roi, le rouge symbolise le commandant du roi, le vert symbolise le clerc, et le noir symbolise le peuple. Pour les habitants d'Aceh, kasap ne se limite pas à la décoration et à l'esthétique. Le style de kasap est aussi un symbole qui implique une obéissance religieuse qui a fusionné avec la culture. Kasap est généralement utilisé lors des mariages, de la circoncision, de l'akikah et d'autres rituels traditionnels. En plus d'être appliqué sur les rideaux, kasap est présent dans d'autres décorations, telles que les allées, les portails, les tapis de siège, le plafond de la maison, le matelas, le ventilateur jusqu'aux porte-clés. Kasap n'est plus limité à la décoration dans les rituels traditionnels. Il a pénétré dans des souvenirs au goût ethnique. Pour le processus de fabrication, la durée de fabrication dépend du type de produit fabriqué. Le prix dépend également du type d'article et du type de fil utilisé. Si vous utilisez du fil d'or, le prix sera évidemment plus élevé. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Menyanyi syair yang dalam ya cinta untukmu. Memetik gitar menyanyi syair yang tulus, persembahan kamuku, nantikan kau di tidur lalapku, pujaanku.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur, en format sur Inacraft 2019. Jakarta, une ville avec une variété de mélanges ethniques et culturels, attire les gens pour faire des affaires et gagner de l'argent. Jakarta est sans aucun doute devenue un centre d'affaires et un baromètre pour d'autres régions d'Indonésie. La combinaison de la multiethnicité et de l'acculturation de la culture a également un effet sur les traditions autochtones du peuple de Jakarta. Cette variété, presque oubliée, d'art culturel autochtone a encouragé l'association des exportateurs et entrepreneur d'artisanat indonésien ACFI à le préserver et à le développer en faisant de DKI Jakarta l'icône d'Inacraft 2019. Du 24 au 28 avril 2019, l'exposition au Salon international de l'artisanat de Jakarta Inacraft 2019 s'est à nouveau tenue à Jakarta Convention Center. Sous le thème Diversité multiculturelle agréable de Jakarta, Inacraft présente à nouveau la diversité multiethnique et l'acculturation de la culture qui influence la beauté de l'art et de la culture de Jakarta. Inacraft est né d'une pensée simple et noble, visant à améliorer le bien-être des artisans et des entrepreneurs dans le domaine de l'artisanat en Indonésie. INACRAF a eu lieu pour la première fois en avril 1999. Du temps à autre, INACRAF est devenue l'une des primadonnas des artisans, même attendue par les gesteurs ou les amateurs d'artisanat étrangers. Cette exposition a un impact sur la valeur croissante des exportations d'artisanat indonésien. L'année dernière, INACRAF 2018 a attiré 1022 acheteurs de 47 pays et a enregistré 135 000 visiteurs. Le nombre de transactions de détail atteint 139,7 milliards de rupiahs et les contacts commerciaux s'élevant à 10 620 500 dollars américains. Cette année, 1300 kiosques de différentes régions du pays ont participé à INACRAF. Non seulement présenter l'artisanat local, mais INACRAF a choisi le Maroc comme focus pays. Dans l'exposition de cette année, l'INACRAF 2019 n'expose pas seulement des produits marocains et indonésiens, mais crée également des œuvres communes d'artistes marocains et indonésiens, créant ainsi une acculturation entre le Maroc et l'Indonésie. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous avez écoutée. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous allons vous présenter une chanson du groupe musical Kahitna intitulée Cerita Cinta ou en français Histoire d'amour. Kahitna est un groupe musical de Bandung fondé le 24 juin 1986. Actuellement, ce groupe musical est dirigé par Yovi Widianto, dont les membres sont Carlos Saba, Hedi Yunus et Mario Ginanjar. L'une des caractéristiques de Kahitna est l'arrangement de la musique qui mélange d'éléments de jazz, pop, fusion, latin et ethnique. Il porte souvent le thème de l'amour avec des paroles romantiques. Aucune exception avec la chanson Histoire d'amour. Cette chanson également pour le thème de l'amour avec des paroles romantiques. La chanson Histoire d'amour raconte le début à se rencontrer jusqu'à ce qu'ils aient tous les deux ensemble de l'amour et décident d'établir l'amour. Bon, chers auditeurs, voici donc la chanson de Kahitna intitulée Histoire d'amour. Bonne écoute.
Bye. of Indonesia.
Of Indonesia.
Tak ada yang harus kita sesali. Semua indah yang pernah kita alami, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan aku.
Dirimu.
Bon, chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.